à vous d'échanger avec des professionnels du milieu hospitalier généraliste. Nos intervenants vont se présenter dans un instant, je vais vous les présenter d'ailleurs, et on va donc évoquer ensemble le sujet de ce soir qui s'appelle l'anesthésie, sécurité, qualité des soins. Alors afin à la fin des exposés de chacun, vous pourrez bien sûr poser vos questions, comme d'habitude vous connaissez le rendez-vous. Je circulerai dans la salle avec le micro, vous parlerez bien dans le micro parce qu'en fait tout ce qu'on va se dire ce soir est enregistré pour être ensuite diffusé sur les sites internet respectifs du CHU et de l'espace Mendès France. Comme ça, vous allez pouvoir réécouter l'ensemble des interventions de nos intervenants, et puis vos questions aussi, et les réponses, bien évidemment. Alors, si vous êtes timide et que vous n'avez pas envie de parler dans le micro, aucun souci. Il y a des petites feuilles qui ont été distribuées dans les petits dossiers que vous avez. Il suffit d'écrire. Alors, attention, je vieillis. Hein. Écrivez de plus en plus gros et de mieux en mieux. Je vous fais confiance. Et je lirai vos questions tout à l'heure, évidemment. Vous avez donc aussi tout un tas de documents. Et une fiche d'évaluation, je vous le dis systématiquement aussi, alors pour les petits nouveaux, je vais l'expliquer, cette fiche est très importante parce qu'elle nous permet à nous de répondre à vos attentes et puis de faire, on espère, de mieux en mieux. Donc n'hésitez pas à remettre à nos hôtesses tout à l'heure en fin de conférence, donc cette fiche d'évaluation. Et vous avez tout un tas de documents, bien sûr, qui sont joints à ce dossier. Je vous demanderai également d'éteindre vos téléphones portables afin qu'on ne soit pas dérangé pendant la conférence par des petites sonneries, même si elles sont rigolotes, je le sais. Alors on va répondre à plein de questions, enfin pas moi, surtout les intervenants. Qu'est-ce que l'anesthésie, le réveil, les différentes sortes d'anesthésie, etc. Vous poserez, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes vos questions. Bienvenue donc à cette 103e édition, conférence donc de Pôle Info Santé, ici à l'espace Mendès France. Je vais vous présenter les intervenants, le professeur Bertrand Debanne, chef du service d'anesthésie et réanimation au CHU, bonsoir. Le docteur Denis Frasca, qui est maître de conférence universitaire, praticien au service d'anesthésie et réanimation au CHU, bonsoir. Le docteur Mathieu Boisson, chef de clinique service d'anesthésie et réanimation au CHU, bonsoir. Et puis le docteur Claude Bérard, médecin généraliste, bonsoir. Je vais d'ailleurs vous céder la parole, docteur Bérard.
Oui. Bonsoir. Je ne sais pas si je dois remercier Bertrand Debanne, mon voisin, de m'avoir embarqué dans cette affaire, parce que c'est vrai que je pense que vous êtes plus pour entendre les explications des anesthésistes que du généraliste. Mais je voudrais quand même replacer mon métier du médecin généraliste et de l'aide aux patients que l'on peut assurer. L'anesthésie, elle survient dans deux cas. Soit elle survient en aigu, vous faites renverser dans la rue, vous avez une jambe cassée, vous êtes embarqué par l'ambulance, vous arrivez aux urgences, vous êtes endormi. Là, ça ne pose pas de problème. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. La deuxième chose, c'est moi qui fais un diagnostic et qui trouve qu'il y a une intervention. Et donc, j'adresse une lettre au chirurgien. Et là, il y a un petit reproche que je me fais à moi-même et que je fais au médecin généraliste, mais je leur ferai un petit reproche aux anesthésistes après. C'est vrai que dans notre travail, on fait une lettre au chirurgien et on fait très peu une lettre à l'anesthésiste, ce qui est un tort, je pense. Mais notre travail, c'est quand même de dépister les éventuels écueils à l'anesthésie, et notre travail, c'est de les prévenir. Bon, je ne vais pas parler de traitement anticoagulant, par exemple, de l'aspirine, les allergies, signaler les allergies aux antibiotiques, signaler les patients qui ont de l'asthme, les bronchites asthmatiformes qui peuvent jouer sur l'intubation, les antécédents familiaux, puisque médecin généraliste, on a encore la chance de connaître la famille, et c'est vrai que quand il y a un antécédent d'accident anesthésie chez le grand-père ou chez le père, je pense que ça les intéresse un petit peu. Donc ça, c'est notre premier travail. Et puis ensuite, on a un deuxième travail. Et dans le premier travail aussi, il y a le petit papier maintenant que vous recevez des anesthésistes à remplir avant l'intervention. Et là, c'est vrai que souvent, les gens sont un petit peu perdus et viennent nous voir pour qu'on n'oublie pas quelque chose justement sur ce fameux papier qui est une très bonne relation entre nous deux. Puis le deuxième travail qu'on a, c'est un travail psychologique. Parce que vous allez, dans cette opération programmée, faire une consultation de pré-anesthésie. C'est-à-dire que vous allez les voir, et puis vous allez ressortir, paniqué. Parce qu'ils vous ont tout dit. Ben oui, forcément, ils vous disent tout ce qui peut vous arriver. Donc là, nombre de patients viennent chez nous et oh là, c'est pas possible. Avec tout ce qui peut m'arriver, je vais mourir, je vais avoir ça, je vais avoir ci. Donc notre rôle, c'est un rôle effectivement de rassurer. Et moi, j'ai toujours un exemple que je donne. Il vaut mieux se faire endormir plutôt que de prendre sa voiture pour aller à Châtellerault. Vous avez plus de risques de mourir avec la voiture Poitiers-Châtellerault que à l'anesthésie. Donc ça, c'est notre premier rôle. Le deuxième rôle, c'est évidemment à la sortie de l'établissement. Et là, c'est là que je fais le petit reproche aux anesthésistes, c'est que leur arrive souvent dans la consultation de pré-anesthésie de demander des examens complémentaires parce qu'ils trouvent quelque chose. Et là, on n'en est jamais au courant non plus. Donc je pense que la relation entre les deux a encore à s'améliorer. Puis la sortie, bon, bah, évidemment, c'est les traitements qui sont donnés, on a l'explication du traitement que vous n'avez pas forcément le temps de faire ou qu'ils n'ont pas forcément compris à ce moment-là à l'hôpital sur les antidouleurs, sur le traitement X et Y. Donc ça, c'est notre deuxième travail. Je vais aborder deux problèmes aussi qu'on a souvent. C'est spécifique, c'est la femme enceinte. Hein, les nombreuses questions qu'on a sur la péridurale. Donc là aussi, c'est un rôle psychologique. Et puis, sur l'enfant. L'anesthésie de l'enfant, c'est quelque chose de très particulier. Enfin, l'opération programmée chez un enfant, c'est très particulier. Parce que la première chose à faire, c'est de calmer les parents. C'est l'anxiété des parents qui est la plus importante. Donc déjà, notre rôle, c'est vis-à-vis des parents. Et c'est drôle, j'ai lu un article qui m'a bien plu. Les parents, ils posent des questions, mais qui ne sont pas en rapport avec leur anxiété. Leur anxiété, c'est de dire, est-ce que mon gamin va s'en tirer? Et ils posent des questions, et sur une statistique, ils ont dit, quelle va être la taille de la cicatrice? Est-ce qu'on va le raser? Est-ce qu'on va jeûner? Est-ce qu'on va le mettre nu? Et en fait, ces questions ne sont posées que parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer leur anxiété vis-à-vis du gamin. Dans la même enquête, les enfants ont des réflexions qui sont assez marrantes. Est-ce que je ne vais pas me réveiller pendant l'intervention? Anxiété du gamin. Est-ce qu'on me dit toute la vérité? Bon, est-ce que je ne vais pas mourir? Et la dernière, est-ce que je serai totalement nu? Donc des questions qui révèlent un petit peu aussi une certaine anxiété chez les enfants. Et ben voilà, donc aspect spécifique, bon, la personne âgée aussi, avec les multiples traitements. Donc est-ce que, vu que j'ai mon problème cardiaque, etc., est-ce que, bon, là aussi, on leur dit que la consultation pré-anesthésie, elle est faite pour ça, et qu'ils vont gérer le dossier. Donc voilà, notre rôle, il est, je pense, plus d'explication et psychologique. Et ce que je souhaite, donc, c'est peut-être une petite amélioration de la part des deux pour la compréhension des deux. Voilà.
Merci, Claude. Je vais juste faire un petit mot supplémentaire. Bonsoir à tout le monde. Donc j'avais décidé d'articuler cette session avec trois présentations. Une, pour laquelle d'ailleurs j'avais demandé à Claude Barra de venir puisque ça concerne la phase préopératoire, c'est-à-dire quel est l'intérêt d'avoir une visite avant de se faire opérer. Ça c'est Denis Frasca qui va vous présenter ça. Moi je vais vous faire quelques notions sur l'anesthésie, mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas un cours d'anesthésie parce que ça n'a pas de sens. Mais j'avais souhaité vous exprimer quelques principes et quelques résultats concernant la sécurité. Et puis, il y a un troisième élément, une fois que vous avez été opéré, que vous êtes sorti de la salle d'opération, c'est tout ce qui se passe après, donc tout ce qui se passe en salle de réveil, enfin qu'on appelle maintenant différemment, mais peu importe, c'est la salle de réveil. Et ça, c'est Mathieu Boisson qui vous expliquera les problématiques de la salle de réveil. Donc, Denis, allons-y.
Merci, monsieur Deban. Bonsoir à tous. Je vais me lever parce que ce sera plus facile pour vous passer les diapos, puis ce sera plus facile pour moi de parler aussi. Donc, dans cette première partie, je vais surtout aborder les problématiques du préopératoire avec les questions que peuvent se poser les patients et les réponses que l'on peut apporter avant une intervention chirurgicale, notamment au moment de la consultation d'anesthésie. Alors, je commencerai tout d'abord par vous faire un bref rappel sur ce qu'est l'anesthésie, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que M. Deban peut-être vous en parlera un petit peu plus ultérieurement. Donc, c'est un acte médical. L'anesthésie, c'est un acte médical au même titre que la chirurgie, qu'un acte de diagnostic radiologique. Et c'est un acte médical dont l'objectif est la suspension temporaire et réversible de la sensibilité douloureuse. Ça, c'est l'objectif principal. Anesthésie, étymologiquement, ça veut dire suppression de la douleur. Mais dans un certain nombre de cas, on a également la suspension de la conscience. Donc ça, c'est plutôt l'anesthésie générale, voyez, où on suspend la douleur et la conscience. On a donc ces deux éléments qui, quelquefois, sont associés également à une paralysie musculaire, ce qu'on appelle dans notre jargon la curarisation, pour bloquer les muscles, pour pouvoir intervenir chirurgicalement ou pour favoriser l'intubation des patients. Donc ça, c'est l'anesthésie décrite d'une façon un petit peu générale et technique. Mais surtout, l'objectif principal de l'anesthésie, c'est que ça permet une chirurgie de qualité en ayant des patients qui ne souffrent pas et des opérateurs, des chirurgiens qui peuvent opérer dans les meilleures conditions possibles. Alors, à partir de ces quelques principes, il y a trois types d'anesthésie. L'anesthésie locale, qui finalement est une méthode qui consiste à injecter directement un anesthésique local à un site très précis, par exemple sous la peau, pour pouvoir faire une incision, retirer un kyste, et en aucun cas le patient donc n'est endormi complètement. C'est une anesthésie très localisée, c'est pour ça qu'on l'appelle anesthésie locale. Cette anesthésie locale, finalement, c'est pas la principale type d'anesthésie qui concerne l'anesthésiste. Mais il y a l'anesthésie loco-régionale. Alors, l'anesthésie loco-régionale, c'est une anesthésie un petit peu plus complexe qui en fait consiste à endormir un territoire du corps humain en injectant un médicament anesthésique, un anesthésique local en l'occurrence, près des nerfs ou près du système nerveux central. Donc ça peut être ce qu'on appelle un bloc périphérique, quand on endort seulement un bras, mais ça peut également être un bloc de type neuraxial qui concerne le système nerveux central, notamment lorsqu'on fait une rachianesthésie ou une péridurale. Enfin, le troisième type d'anesthésie, celui qu'on connaît le plus, hein, que vous connaissez le plus, c'est l'anesthésie générale, où là, le patient est endormi complètement et on va devoir pallier notamment aux fonctions respiratoires pour pouvoir faire une chirurgie dans de bonnes conditions. Alors, l'anesthésie, c'est un progrès médical majeur, puisqu'elle a permis, au cours du 19e siècle, de favoriser la chirurgie, la technique chirurgicale de façon évidente. Ça a permis notamment de passer de cette époque où on endormait les patients à l'éther, hein, vous voyez, au milieu du 19e siècle, à aujourd'hui, au CHU de Poitiers, ici, un environnement tout à fait technologique. Ici, on n'avait pas de surveillance des patients, ce qui sert d'anesthésiste était livré à lui-même, avec le patient tout seul, le chirurgien venait opérer. Bon, voilà, le patient ne dormait pas vraiment, c'était assez improvisé. Maintenant, l'environnement est très technique, tout est sécurisé, protocolé, et les progrès majeurs sont intervenus notamment pour réduire le risque anesthésique. Alors, pardon pour l'animation. Donc, quels sont justement ces risques liés à l'anesthésie? La sécurisation des procédures et l'organisation du suivi avant l'anesthésie, pendant l'anesthésie et après l'anesthésie ont permis finalement, même si en 30 ans le nombre d'anesthésies a augmenté d'à peu près 2 fois, de diviser le risque par plus de 10. Et finalement, actuellement, on a moins d'un décès pour 150 000 anesthésies. Alors, je vous ai dit que toute cette procédure, elle était bien protocolée, donc on passe toujours avant une anesthésie par l'étape consultation d'anesthésie. Alors la consultation d'anesthésie, en quoi ça consiste? C'est une consultation qui est obligatoire, donc quand vous allez être endormi, quand on doit être endormi pour une intervention chirurgicale, on va voir l'anesthésiste, même si c'est pour une péridurale, même si c'est pour n'endormir qu'un bras. C'est une recommandation du décret du 5 décembre 1994 qui pour nous est un décret fondateur en termes de sécurité de l'anesthésie. Cette consultation, elle doit avoir lieu 48 heures avant l'intervention, au minimum 48 heures avant. Donc, on ne fait pas la consultation la veille de l'intervention, sauf dans les cas d'urgence. Donc, pour une intervention programmée, la consultation doit avoir lieu 48 heures avant. Et elle est réalisée par un anesthésiste réanimateur. Ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant. Parce que, pour l'instant, le décret oblige que ce soit un anesthésiste réanimateur. Alors, la durée de la consultation, c'est très variable en fonction du type de chirurgie, en fonction des pathologies du patient, mais ça peut durer de 15 à 45 minutes de façon assez moyenne. Les objectifs de cette consultation, ça va être de recenser les problèmes médicaux et d'évaluer le risque, d'établir la stratégie d'anesthésie la plus appropriée, y compris en en ayant discuté avec le chirurgien, mais c'est également informer et expliquer et discuter bien sûr avec le patient pour lui fournir le meilleur service possible. Alors comment ça se passe ? Donc, première étape, la consultation, c'est d'abord un interrogatoire. Donc on va discuter avec le patient qui bien souvent aura rempli un questionnaire sur lequel il nous aura noté un certain nombre d'éléments concernant sa santé. Donc on va recueillir ses antécédents médicaux, ses antécédents chirurgicaux, est-ce qu'il a été opéré, est-ce qu'il a une maladie en cours, est-ce qu'il est traité pour une maladie. Et puis bien, anesthésie souvent c'est associé à l'allergie. Pourquoi ? Parce qu'on a certains médicaments qui favorisent certaines allergies. Donc on aime bien savoir si les patients ont un terrain allergique. Donc on demande toutes ces questions au patient qui, quelquefois, comme je vous l'ai dit, a déjà complété un formulaire qui nous permet d'aller à l'essentiel. Après cette phase d'interrogatoire, on va examiner le patient. Donc là, on va surtout recueillir, pour ce qui nous concerne, ce qu'on appelle les critères d'intubation difficiles. Donc on essaye de recenser chez les patients si on va avoir un problème au moment de l'anesthésie pour intuber le patient, notamment si, par exemple, il a un cou court, une barbe volumineuse, une rigidité du rachis cervical, ou s'il a déjà eu des problèmes lors d'une précédente anesthésie pour être intubé. Ensuite, on fait ouvrir la bouche au patient. Peut-être certains d'entre vous ont déjà eu une consultation d'anesthésie et se sont demandé pourquoi on faisait ouvrir la bouche des patients. Eh bien, c'est pour regarder comment est configuré le haut du pharynx et de voir un petit peu si on a on envisage des difficultés d'intubation. On a certains critères déterminés pour connaître ces difficultés d'intubation. Alors ensuite, on prend la tension artérielle, on ausculte les patients et on finit notre examen plus l'interrogatoire par déterminer ce qu'on appelle une classe ASA, c'est-à-dire qu'on classe en 4 catégories nos patients. Ceux qui ne vont pas poser problème a priori, ceux qui n'ont pas de maladie, ceux qui ensuite ont une gradation plus importante dans leur état de santé, et notamment ce qu'on appelle les patients ASA4, ce sont les patients les plus précaires, pour lesquels le risque anesthésique, là, va être différent des patients que l'on aura classés dans la première catégorie. Donc c'est une classification américaine de l'American Society of Anesthesiologists. Enfin, on va discuter avec les patients, on va les informer, notamment des avantages, des risques, des différentes techniques. Donc les patients, à ce moment-là, vont nous poser des questions et vont nous demander, qu'est-ce que vous en pensez ? Le chirurgien m'a dit, combien de temps ça va durer ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Et quand est-ce que je vais sortir ? Voilà. Bon, on discute et nous, on leur présente donc les risques, les avantages des différentes techniques pour qu'ils puissent, en connaissance de cause, choisir la suite de l'intervention. Alors, on présente également d'autres notions, ce qui concerne surtout l'analgésie post-opératoire. Les patients aiment bien savoir s'ils vont avoir mal après une intervention, donc on leur explique toujours comment va être prise en charge la douleur. Est-ce qu'on va mettre une pompe à morphine ? Est-ce qu'on va mettre une péridurale avant l'intervention pour l'utiliser contre la douleur ? Quels sont les médicaments qu'on va donner pour le retour à domicile ? Tout ça, c'est expliqué à la fin de la consultation d'anesthésie. On précise également s'il y a un risque de transfusion pour les interventions hémorragiques. On peut expliquer aux patients qui risquent d'être transfusés et qu'est-ce que ça suppose comme contrainte. Enfin, les suites post-opératoires, on expliquera donc aux patients s'il y a besoin d'aller en réanimation ou en salle de réveil pendant plusieurs heures pour une surveillance un petit peu plus importante. Donc tout ça, on l'explique aux patients à la fin de la consultation de l'anesthésie. Alors, pendant la consultation d'anesthésie, on prescrit quelquefois des examens complémentaires, qu'en plus on n'envoie pas en copie au médecin généraliste, ce qui est préjudiciable quelquefois à la bonne circulation de l'information. Donc, quels sont ces examens complémentaires? C'est souvent une prise de sang avec un bilan de coagulation, une numération formule sanguine, un ionogramme sanguin. Alors, c'est une prise de sang qui n'est pas nécessairement réalisée à jeun et qui peut être faite à tout moment après la consultation d'anesthésie ou à distance au retour du patient chez lui. Un électrocardiogramme pour les patients qui ont des antécédents cardiaques ou qui sont un petit peu plus âgés. On prescrit également quelquefois une radiographie pulmonaire ou une radiographie thoracique pour les patients qui ont des problèmes respiratoires connus ou dont ils nous ont parlé. Enfin, de plus en plus, on est amené à demander une échographie. Alors, c'est souvent une échographie cardiaque pour connaître la fonction cardiaque des patients. Alors, on peut demander tout un tas d'autres examens, une épreuve fonctionnelle respiratoire. On peut demander également des examens de recherche d'apnée du sommeil, par exemple, la polysomnographie. Bon, tout ça, c'est des examens qu'on va prescrire selon le terrain du patient, en fonction des antécédents et de la nécessité de ces examens pour la chirurgie. En fin de compte, on n'envoie pas les résultats des examens aux médecins généralistes parce que souvent ces examens sont faits pour diagnostiquer une maladie non connue, bon, qui va entraîner un traitement, une modification de la prise en charge. Donc ça, c'est assez rare. Ils vont servir de référence pour l'évolution post-opératoire. Par exemple, on réalise une mesure du taux d'hémoglobine avant l'intervention et puis on voit comment ce taux d'hémoglobine évolue après l'intervention, pour être sûr qu'il n'y a pas de saignement actif après l'intervention. Ils nous servent quelquefois à évaluer le risque d'une intervention ou de l'anesthésie. Bon, ça, c'est un peu plus rare. En réalité, on n'envoie pas ces résultats aux médecins traitants dans un grand nombre de cas, parce que si l'interrogatoire et l'examen clinique sont normaux, eh ben, on ne prescrit pas d'examen complémentaire aux patients qui n'en ont pas besoin. Ce sont les recommandations de la Société française d'anesthésie-réanimation. Pas d'examen complémentaire lorsqu'il n'y a pas à l'interrogatoire ou à l'examen clinique une notion d'anomalie physiologique. Parce qu'en réalité, ça ne permet qu'exceptionnellement le diagnostic d'une maladie non connue, ça ne modifie pas la prise en charge et on a un gros risque de faux positifs. C'est-à-dire que quand on demande un examen dont on n'a pas besoin et qui revient positif, ça va entraîner une lourdeur en termes de prise en charge du patient. Ça ne va pas modifier quelquefois au final la prise en charge, mais on va lui faire subir toute une série de batteries d'examens supplémentaires dont il pourrait éventuellement se passer. Donc ces examens qu'on appelle faux positifs, donc ce sont des examens qui sont faussement inquiétants, eh ben, ils vont entraîner un surcoût en termes de santé, mais également en termes de confort et de qualité de la prise en charge. Donc, les examens complémentaires, c'est une prescription très restreinte. Alors maintenant, quelles sont les consignes avant l'anesthésie? Ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Et notamment, doit-on arrêter la prise de certains médicaments? La réponse est oui. La plupart du temps, on n'arrête pas les médicaments, le traitement en cours avant l'anesthésie, sauf pour un certain nombre de médicaments qui sont déjà dans le traitement des patients. C'est notamment le cas plusieurs jours avant l'intervention des anticoagulants et de l'aspirine. Donc ceux-là, systématiquement ou presque, ils sont arrêtés. De moins en moins pour le cardégique lorsque c'est une intervention, par exemple, de chirurgie vasculaire. On a des indications très précises. Bon, tout ça, on en discute avec le chirurgien et il existe des recommandations qui nous permettent de nous guider dans le choix ou non de l'arrêt de ces médicaments. Mais ceux-là, on peut envisager l'arrêt. Quelquefois, la veille de l'intervention, on arrête certains médicaments antihypertenseurs, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, par exemple. On arrête également certains médicaments antidiabétiques qui peuvent interférer avec nos drogues d'anesthésie. Donc là, c'est au cas par cas, encore une fois, ce n'est pas systématique, mais certains médicaments doivent être arrêtés. Bien souvent, la plupart des traitements pris par les patients n'ont pas besoin d'être arrêtés. Alors, pourquoi ne peut-on pas boire et manger avant une intervention? Après la perte de conscience, il va se passer un phénomène qui fait que les réflexes au niveau de la gorge, donc entre les voies aériennes et les voies digestives, vont être altérés. Donc au moment où on endort le patient. Donc si ces réflexes sont altérés, on peut avoir un risque d'inhalation, de régurgitation de liquide gastrique avec une inhalation dans les poumons. Donc c'est pour ça qu'on interdit la prise de boissons et d'alimentation avant une anesthésie. La règle, celle qui était la règle, c'était d'être à jeun 4 à 6 heures avant l'intervention. Désormais, cette règle est un peu plus souple. Jusqu'à 2 heures avant l'intervention, de plus en plus, vous allez pouvoir, on va pouvoir donner au patient un verre d'eau sucré, un café sucré, mais par contre, on proscrit complètement le jus d'orange, tous ces liquides particulaires qui, eux, peuvent favoriser les régurgitations. Alors, une autre question qui revient souvent, c'est pourquoi ne peut-on pas fumer ? Pour les fumeurs, c'est un problème. Le problème, c'est que, justement, pour nous, ça favorise l'hyperréactivité bronchique. Donc, les patients qui vont fumer avant une anesthésie vont avoir un problème de bronches hyperréactives. Et au moment où on va les endormir, on peut avoir ce qu'on appelle un bronchospasme ou des phénomènes de toux gênants qui favorisent en plus les phénomènes de régurgitation dont je vous ai parlé. Et donc, tous ces processus-là peuvent créer des difficultés respiratoires au cours de l'anesthésie. C'est pour ça qu'on préfère que les patients ne fument pas avant une intervention et qu'ils ne fument pas quelques jours avant. De plus, ça favorise les sécrétions gastriques, donc ça favorise encore plus le risque de régurgitation. Voilà, je vous l'avais mis là, ça favorise les sécrétions bronchiques et gastriques. Alors, une autre question, à quoi sert la prémédication ? Vous savez, quand on parle de prémédication, c'est le petit comprimé qu'on vous donne la veille ou le matin avant d'aller au bloc opératoire. Donc, c'est ce que j'ai noté là, une heure avant ou la veille de l'intervention. Ben, cette prémédication, souvent, elle sert à calmer l'angoisse. C'est un médicament anxiolytique. Mais elle peut servir également à poursuivre un traitement habituel parce qu'il y a certains traitements qu'on ne doit pas ou qu'il est déconseillé d'arrêter. Ce sont notamment les bêta-bloquants, le lévothyrox, quand on a une maladie thyroïdienne, les antiépileptiques. Les patients qui prennent des antiépileptiques depuis longtemps ne doivent pas arrêter ces médicaments, y compris le matin avant d'aller au bloc opératoire. Il existe tout un tas de médicaments qui nécessitent qu'on les poursuive avant une intervention. Et quelquefois, la prémédication, ben, c'est également un antibiotique. On donne un antibiotique au patient pour ce qu'on appelle faire la prophylaxie, c'est-à-dire éviter les infections du site opératoire après l'intervention. Et puis finalement, quand on a fait tout ça, comment ça se passe à l'arrivée au bloc opératoire ? Donc on va vous installer en salle, on va vous accueillir. Généralement, il y a un infirmier, une infirmière anesthésiste, en plus du médecin anesthésiste. Il y a certains élèves infirmiers anesthésistes, des internes, des externes. Il peut y avoir un certain nombre de collaborateurs de l'équipe chirurgicale avec l'infirmière de bloc opératoire, le chirurgien et ses collègues. Donc on arrive en salle, on s'installe et on installe une surveillance qui va nous permettre de surveiller en permanence le patient de façon paraclinique. Ce sont l'électrocardiogramme, la saturation en oxygène dans le sang. On met en place une perfusion et c'est grâce à cette perfusion qu'on va réaliser l'induction anesthésique. Ce qu'on appelle l'induction anesthésique, c'est le moment où le patient s'endort. Donc on fait respirer d'abord dans un masque à oxygène et ensuite on injecte les médicaments hypnotiques, morphiniques, voire incurares. À partir de ce moment-là, l'anesthésie devient complètement l'affaire de l'équipe d'anesthésie. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Super, Denis, merci beaucoup. Alors évidemment, tu m'as piqué plein de diapos, donc ça va être beaucoup plus simple pour moi. Et donc je vais pas vous parler de technique d'anesthésie parce que c'est pas l'objet et en plus ça vous intéresse pas. Mais j'ai volontairement pris le parti de faire un peu de philosophie. Pour moi, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est intéressant. Et puis, on va essayer de décortiquer comment, en France tout du moins, on a sans doute extrêmement bien amélioré nos données de sécurité. Denis vous en a parlé tout petit peu, mais je vais y aller plus longtemps et plus doucement dessus. Ça, vous le savez, c'est les définitions de l'anesthésie. C'est certain. Donc le problème, c'est réduire ou diminuer la sensibilité d'un organe ou de manière plus générale. Ça supprime la douleur. Et vous voyez que dans le petit Robert, on part aussi de narcose, donc de perte de conscience. En fait, quand on regarde plus précisément la pratique de l'anesthésie, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'ensemble des techniques qui permettent aux malades, donc aux patients, de tolérer, et on est bien là sur une tolérance donc d'un acte qui est fait par un autre, de tolérer un acte thérapeutique ou un acte diagnostique, qu'il soit médical ou chirurgical. Autrement dit, l'anesthésie ne vous guérira pas. Un médecin, quand vous allez voir M. Bérard, qui est un excellent médecin généraliste, puisque c'est mon voisin et c'est mon médecin traitant, quand vous allez le voir, c'est que vous avez besoin qu'il vous guérisse. Et vous venez pour ça. Mais quand vous venez nous voir, Denis, Mathieu, moi et mes collaborateurs, ne va pas vous guérir, jamais. On va simplement faire que, en sorte que vous puissiez bénéficier de la thérapeutique dont vous avez besoin, à la fois diagnostique et thérapeutique. Ça, c'est un élément extrêmement important puisque ça différencie réellement la pratique médicale anesthésique de la pratique médicale globale. Et donc, de la même, quand on réfléchit un peu, comme tous les médecins, c'est marqué dans le code de déontologie, et Claude Bérard est bien au courant de ça puisque c'est défendu par l'ordre des médecins, nous avons tous l'obligation de moyens. Mais moi, je considère qu'en anesthésie, compte tenu du fait qu'on ne vous guérit pas, on a obligation également de résultats. C'est quoi le résultat? Eh bien, c'est qu'en post-opératoire, vous retrouviez l'état clinique préopératoire que vous aviez, sous réserve, bien sûr, de l'acte chirurgical. Si le chirurgien vous a enlevé la vésicule biliaire, on ne pourra pas vous la rendre. Mais, autant que faire se peut, notre objectif, c'est de vous ramener à un état clinique post-opératoire identique à l'état clinique préopératoire, notion qui est tout à fait différente de l'ensemble de la pratique médicale. Donc, de là, et je continue dans ma réflexion éthique, parfois, eh bien, de là, on arrive à ce qu'on appelle la notion de tolérance à l'erreur. Cette notion de tolérance à l'erreur, c'est en fait une notion de tolérance sociétale. Et donc, cette tolérance oscille entre l'inacceptable et l'acceptable. Deux exemples. Je prends en charge cette nuit un polytraumatisé de la route qui arrive au CHU par hélicoptère avec deux fractures du fémur, un trauma crânien, un trauma thoracique. Il va au bloc opératoire. On fait tout ce qu'on peut, malheureusement le patient décède, personne ou peu de monde viendra nous chercher des poux dans la tête. Puisque simplement l'état morbide du patient à l'arrivée au bloc opératoire est tellement grave que un non-résultat n'est pas un drame en soi. Donc on est dans la partie acceptable. A l'inverse, même garde, je vais prendre en charge un enfant pour une chirurgie de l'appendicite, en appendicite aiguë, un enfant qui va très bien au demeurant. Eh bien, si effectivement ça se termine par un décès, la société, donc vous, les médias et la presse, considéreront avec juste raison que ce décès est totalement inacceptable. Et que donc, on voit bien que l'oscillation entre inacceptable et acceptable dépend très clairement de l'état clinique du patient préopératoire. Je ne parlerai pas ici de l'affaire d'Orthez, mais si vous voulez, on pourra en parler deux minutes après. Donc, clairement, comme vous l'a dit Denis, et il avait bien raison de le dire, l'évaluation préopératoire de la consultation permet de rentrer les patients dans ces cinq catégories de la classification américaine, mais qui aujourd'hui est utilisée dans le monde entier. Et c'est une classification qui est même utilisée dans les pays anciennement soviétiques, pour vous dire que c'est un truc qui est assez puissant. Et donc, bien évidemment, plus vous aurez une classe ASA élevée, et bien plus le risque opératoire, comme l'a dit Denis, sera élevé. À titre d'information, voilà les données françaises. Et la répartition des patients qui sont pris en charge au bloc opératoire, en fonction de la classe ASA, vous voyez que la France est un pays où le système de santé est encore de qualité, puisqu'on a à peu près 90% de la population qui est classe ASA 1-2, 11% de classe ASA 3 et 1% de classe ASA 4. Ça, par exemple, c'est le patient qui rentre en chirurgie cardiaque pour un pontage en urgence. Eh bien, lui, il a une pathologie gravissime, médicale, qui va mettre en jeu son pronostic vital et donc ce patient-là est classé ASA 4 et vous voyez que le pourcentage est extrêmement faible et fort heureusement pour nous. Alors, juste deux mots supplémentaires pour vous dire que l'anesthésie, c'est typiquement une activité transversale. Nous sommes des prestataires de service. Ce n'est pas nous qui amenons les malades à l'hôpital. Nous, on est là pour les prendre en charge, mais ce n'est pas nous qui faisons le recrutement. Par contre, on a une activité médicale qui balaye de la néonatologie à la gériatrie, qui s'intéresse bien sûr à la chirurgie de spécialité, qui s'intéresse à la médecine, j'ai mis ici la gastro-entérologie, et maintenant à beaucoup d'autres demandeurs, les radiologues, et plus le temps passe, plus la société, donc la population, a besoin d'une prise en charge de sédation et d'analgésie pour supporter des actes invasifs ou des actes thérapeutiques. Ce qui veut dire que l'anesthésie est une activité structurante d'un hôpital, parce que si l'anesthésie ne va pas bien dans un hôpital, eh bien vous pouvez considérer que, moi je considère que l'hôpital ne va pas bien, puisque nous sommes, je dirais, dans le creux, dans le centre de l'organisation interventionnelle. Alors, comme vous l'a dit également Denis, nous sommes une des rares spécialités médicales à être réglementée. À ma connaissance, il y en a globalement une autre, c'est la radiothérapie, et je ne parlerai pas des affaires radiothérapiques d'Épinal et autres villes. En tout cas, nous sommes gérés, nous sommes commandés par des textes réglementaires, des textes de loi. Le premier, Denis vous l'a rappelé, c'est le texte fondateur. Vous voyez, ce n'est pas vieux, 94. Ça a juste 20 ans. Donc ce décret, qu'on appelle aujourd'hui décret de l'anesthésie, de la sécurité anesthésique, en fait, rend obligatoire pour tous les établissements de soins la présence de la consultation qu'on a évoquée précédemment, la collaboration des médecins anesthésistes à l'élaboration du tableau opératoire avec les chirurgiens, à la nécessité absolue et contrôlée de matériel de surveillance en salle d'opération, et la liste est précise, également de disposer dans les établissements de soins d'une salle de réveil, peu importe le terme, dotée d'un personnel spécifique et d'un matériel spécifique. Ce texte a été complété en l'année suivante par un arrêté, c'est un peu moins puissant en termes de loi, mais qui explique comment on utilise et on contrôle tous les matériels de surveillance qui sont présents dans le bloc opératoire, permettant la pratique de l'anesthésie, comment on le contrôle lors de la mise en service, et comment surtout, parce que ça c'est un élément extrêmement important, comment on a prévu le secours en cas de défaillance d'alimentation électrique, parce que s'il n'y a plus de courant, ça ne marche plus, et surtout comment on pallie à une rupture d'alimentation en oxygène et en gaz médical, parce que s'il n'y a plus d'oxygène, eh ben, ça ne marche pas, et donc il faut avoir prévu des systèmes de secours quand ces pannes-là peuvent malheureusement arriver. Et tout ça, c'est réglementaire. Alors, on peut faire une petite critique que je vais me permettre de faire immédiatement. Ces textes, qu'est-ce qu'ils n'apportent pas ? Ben, ils n'apportent pas de données sur le niveau de la formation initiale et la formation continue. Je dirais ça, c'est du ressort des universitaires. Vous en avez trois ici, on a toute la gamme, puisque le chef de clinique, c'est le premier niveau universitaire, le maître de conférence, c'est le deuxième, et puis moi, je suis plus vieux, donc je suis le troisième niveau. Donc ça, c'est un problème de spécialité. Le deuxième élément qui n'est pas renseigné par ces textes officiels, c'est finalement quelles ressources humaines on doit mettre au bloc opératoire, un médecin, deux médecins, trois médecins, pas de médecin, une infirmière, deux infirmières, rien n'est précisé. Et puis surtout, il y a un élément clé qui ne précise pas non plus quelles sont les activités minimales réalisées pour garantir la sécurité. Et on sait bien qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Et malheureusement, ces textes de loi ne précisent rien sur cet aspect-là. Alors finalement, quand on voit tout ça, l'objectif final de mon métier, de ma spécialité, c'est d'arriver à un risque zéro. Bien sûr, on n'y arrivera jamais, mais en tout cas, on cherche à y arriver. Comment on fait pour améliorer en continu ce principe de sécurité ? Eh bien, c'est assez simple, puisque c'est toujours la même chose. Un, on trouve la cause des complications. Deux, quand on a trouvé la cause, on propose une stratégie d'amélioration, et puis on vérifie si ce qu'on a fait est efficace et si on a corrigé les erreurs. Alors, depuis 20 ans maintenant, ma société de savantes, qu'on appelle l'ASFA, donc vous avez ici deux logos, l'ancien et le nouveau, se sont penchés bien évidemment avec intérêt sur ces problèmes de sécurité. Et un certain nombre d'actions ont été faites. La première action, qui était assez simple, c'est de dire finalement, est-ce que la pratique de l'anesthésie est une pratique qui est consensuelle ? Est-ce que tout le monde fait la même chose ? La preuve, c'est non. Donc, l'ASFA a édité, vous voyez, depuis pratiquement 25 ans, un paquet de recommandations, conférences de consensus, conférences d'experts, recommandations, des recommandations couplées avec l'agence du médicament qui est ici et puis l'autorité de santé. Donc on a édité un certain nombre de recommandations qui sont diffusées sur le site internet de la société. Quelques exemples, comment on fait l'anesthésie pédiatrique, comment on vérifie un appareil d'anesthésie, comment on fait l'analgésie des femmes enceintes, comment on prend en charge une péritonite, comment on prend en charge la douleur post-opératoire, etc. Il y en a des centaines. Et ce sont les éléments de référence qui servent à améliorer la pratique médicale. Je vais faire juste une parenthèse, parce que pour faire l'anesthésie, il faut qu'il y ait des hommes derrière. Et donc, je parlerai ici de données médicales et pas paramédicales. Mais on s'est interrogé à une époque pour savoir finalement combien de docteurs faisaient ce métier-là en France. Alors, on a interrogé le Conseil de l'Ordre, on a interrogé le ministère. Les chiffres étaient complètement incohérents, donc on a fait ça nous-mêmes avec une enquête nationale, et on a trouvé à peu près 8000 anesthésistes en 1996, et on est monté à 10000 en 2006, avec simplement un tout petit bémol qui montre que cette évolution démographique n'est pas gagnée, puisque vous avez ici en vert la démographie des médecins anesthésistes, et vous voyez que si on était bien ici à 10000 dans les années 2006, on est en train de descendre gentiment, avec une pénurie qui s'annonce, qui va être majeure dans les années 2016. A contrario, si vous regardez la courbe noire, le nombre des chirurgiens ne fait qu'augmenter. Donc ça va être compliqué, quoi. Plus de chirurgiens, moins d'anesthésistes, comment va-t-on faire ? Question. Et pour l'instant, la réponse n'est pas trouvée. quelques voies d'amélioration, puisque le nombre d'internes formés tous les ans a pratiquement doublé en 4 ans, mais pour former un interne, il faut 5 ans. Donc ça veut dire qu'on sera à peu près cohérent en termes de hausse de la démographie dans les années 2000. Donc j'aurais passé ma carrière à gérer la pénurie médicale. Super. Ceci étant dit, il faut s'intéresser aux résultats de nos efforts, puisqu'on a eu des textes réglementaires extrêmement forts. On a eu des actions de rédaction, de référentiels et de recommandations. Est-ce que tout ça nous a apporté ses fruits? Alors, pour essayer de trouver une réponse à ça, eh bien on a regardé la fréquence des complications et on va s'intéresser seulement aujourd'hui ici au plus simple à définir, la mortalité. Ça, c'est un élément simple. On est vivant, on est mort, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Et donc, pour pouvoir calculer ces incidences, eh bien, il faut deux éléments. Ben, il faut d'abord calculer le nombre d'anesthésies, on va tout bon l'approcher, et puis calculer le nombre d'accidents. Alors, première question, combien d'anesthésies en France? Alors là, pareil, question mystérieuse. Le ministère est incapable, les caisses sont infoutues de nous donner un chiffre, donc on a fait une enquête nationale en 1996, pilotée par l'INSERM, ça nous a coûté la bagatelle de 2 millions de francs à l'époque, et donc l'objectif était d'évaluer l'activité anesthésique dans tout l'établissement de santé privé public et dans les DOM-TOM. Alors, je vous passe la méthodologie qui était un peu compliquée. C'est des statistiques, c'est du tirage au sort. Globalement, on a étudié 1583 établissements de santé avec un taux de participation extrêmement élevé pour ces enquêtes-là, quasiment à 100%. En 1996, 8 millions d'actes. En 2010, 10 millions d'actes. Si vous rapportez ça au nombre de médecins, ça fait en moyenne nationale 1000 actes par docteur et par an. Où est-ce que ça a changé entre les deux? Et bien ça, c'est les données 1980 en jaune, les données 96 ici en rouge, et vous avez ici le nombre d'actes par million. Là, vous voyez qu'en termes d'activité d'anesthésie pour la chirurgie, on l'a multiplié par deux, c'est normal, c'est plus de chirurgie ophtalmologique, plus de chirurgie orthopédique, c'est simplement lié au vieillissement de la population. On a multiplié par 4 l'activité anesthésique. Pour la maternité, c'est également normal. C'est simplement le taux de péridurale en France qui est aux alentours de 70%, qui ne nous place pas en tête, mais presque en tête des pays européens. Et puis, beaucoup plus intéressant ici, vous voyez, c'est l'autre. C'est quoi autre? Ben, autre, c'est tout ce qui est activité anesthésique pour pas de la chirurgie et pas de la maternité. Donc, c'est la gastro-entérologie. C'est toutes les explorations difficiles et douloureuses pour lesquelles il faut d'anesthésie. Vous voyez que là, on a multiplié le nombre pratiquement par 10. Donc, une évolution considérable de l'activité anesthésique avec une prise en charge beaucoup plus importante de l'obstétrique et puis des spécialités médicales autres que chirurgicales. Alors, une fois qu'on a trouvé le dénominateur, eh ben, il faut trouver le numérateur. Et donc, il faut trouver le nombre de décès imputables à l'anesthésie. Et donc, on va simplement travailler sur la mortalité. Alors, l'étude a été faite, encore une fois, avec l'INSERM, puisqu'on s'est basé sur les certificats de décès. Quand quelqu'un en France décède, un médecin, et M. Bérard le sait bien, rédige un certificat de décès, qui est systématiquement envoyé dans une unité de l'INSERM, et donc on a été pioché dans toute cette base, tous les certificats de décès qui semblaient avoir un rapport avec de l'anesthésie et de la chirurgie, et on a fait une analyse cas par cas, donc ça a pris pas mal de temps pour essayer d'aller décortiquer les phénomènes, aller voir sur site les gens qui avaient signé le certificat de décès, et compléter les dossiers. Globalement, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, si on prend ici les décès totalement imputables à l'anesthésie, donc qui sont 100% responsables pour nous, on est, comme l'a dit tout à l'heure Denis, on est à peu près à 1 pour 145 000. Quand on regarde ça par rapport aux données des années 80, ben on était à 1 pour 13 000. Autrement dit, entre les années 80 et disons, allez, les années 2000, l'incidence, la fréquence des décès liés à l'anesthésie a réduit d'un facteur 10, 13 000. 145 000. Et juste pour mémoire, parce que j'ai lu ça ce week-end, dans les années 47 en France, il y avait une statistique qui faisait 1 mort pour 1000 anesthésies. Donc vous voyez qu'en l'espace de 60 quelques années, on est passé d'un événement fréquent à un événement exceptionnel. Et ceci d'ailleurs est confirmé lorsque on regarde l'évolution de la mortalité en fonction de la gravité des patients. Alors certes, bien sûr, les patients les plus précaires sont ceux qui vont mourir plus que les patients qui sont en très bonne santé, c'est logique. Vous voyez qu'on a gagné sur toutes les cases de la classification. Vous me direz, c'est bien joli, mais un mort pour 450 000, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il faut comparer ça aux autres domaines techniques que vous côtoyez tous les jours. Et en fonction de l'importance du risque de décès, eh bien, on peut classer les processus par des processus amateurs, l'alpinisme, Le saut à l'élastique, c'est bien, ça aussi, pour avoir quelques soucis. Les systèmes sûrs, ben, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Claude Bérard, c'est quand vous prenez votre bagnole pour aller à Châtellerault ou à La Rochelle, vous êtes là. Et puis, il y a les systèmes ultra sûrs, qui sont, alors, bien sûr, maintenant, mais ça, c'est important, c'est la transfusion sanguine, mais si vous regardez en dessous, le nucléaire, le rail, l'aviation civile, donc les avions, je ne parle pas de la compagnie malaisienne, hein, ils n'ont pas eu de chance. Et puis vous voyez que l'anesthésie se situe ici, donc on est rentré, alors qu'on était plutôt ici dans les systèmes amateurs dans les années 47, et bien avec le temps, on a glissé gentiment vers les systèmes ultra sûrs, ce qui a permis de rédiger quelques articles intéressants que je me permets de vous remontrer. Un papier de Libération qui disait « Dormez tranquille, anesthésie est sûre », publié en 2003 lorsque les résultats initiaux de l'enquête mortalité ont été publiés. Et puis vous voyez même dans Le Monde un autre papier en 2007 qui disait « L'anesthésie générale est devenue plus sûre », ce qui veut dire que les efforts conjugués de la collectivité, donc de l'État, des hôpitaux avec l'achat de matériel et la mise en place des structures efficientes, le développement des référentiels et la mise en place de matériel de surveillance fait que finalement, eh bien, on est aujourd'hui dans un système extrêmement sûr. Est-ce que on peut aller plus loin? Oui. Et juste un exemple, dans la même enquête, les auteurs avaient regardé, c'est ce qu'on appelle un arbre racine, avaient regardé finalement quelles étaient les causes de décès. Alors vous voyez, des causes respiratoires. Alors, j'ai oublié de vous dire que l'épaisseur de la racine là dépend du nombre de décès intéressés. Donc, quatre causes principales, le respiratoire, tout ce qui est pulmonaire, problème neurologique rarissime, et puis deux autres causes de décès, des causes cardiaques ou des causes vasculaires. Et donc, de là, on peut bâtir des schémas. Puisque, regardez ici, pour ce qui est des causes respiratoires, quand on fait le détail de la racine initiale jusqu'à la conséquence, eh bien, on voit que là, on a un problème de gestion des voies aériennes supérieures. Alors, 3-4, orthèse, la patiente d'orthèse, elle est morte parce que simplement l'intubation n'a pas été faite correctement et que la patiente n'a pas été oxygénée. Donc, on est bien dans ici un truc classique, malheureusement, de la gestion des voies aériennes supérieures. De la même manière, quand on regarde les deux autres éléments clés qui sont les causes cardiaques et vasculaires, quand on remonte toutes les racines, globalement, on peut dire que tout ça, c'est lié à une mauvaise gestion de la baisse de la pression artérielle observée pendant la phase opératoire, surtout pour les chirurgies à risque hémorragique. Et donc, ça veut dire que derrière, eh bien, il faut travailler, il faut mettre du monitorage adapté, il faut mettre des machines sophistiquées, il faut faire de la formation, et il faut apprendre aux gens à prendre en charge correctement ces phénomènes de baisse de pression artérielle. Encore plus facile et plus loin, c'est la gestion de l'anémie au bloc opératoire, quand les patients saignent. Et vous voyez que l'hémorragie et l'anémie sont deux origines qui vont être la cause de décès d'origine cardiaque. Ce n'est pas une simple affaire, puisque ça représente à peu près 100 malades par an dans l'enquête qu'on avait initialement montrée. Donc, bien sûr, de la même manière, eh bien, des plans d'action ont été bâtis, du matériel a été acheté, de la formation a été faite, et aujourd'hui, la mesure de l'hémoglobine au bloc opératoire sur une chirurgie hémorragique est faite toutes les demi-heures. Avant, c'était fait jamais, maintenant, c'est toutes les demi-heures pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir ou devoir vous transfuser. Alors, finalement, quand on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on a comme perspective d'avenir? Parce que passer de 1 à 1000, à 1 à 450 000, ça a pris 60 ans et beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on peut descendre à 1 pour 300 000, à 1 pour 400 000? Ça, on n'en sait rien, ça va être difficile à faire. En tout cas, l'avenir, c'est l'accréditation des médecins anesthésistes avec donc l'évaluation des pratiques professionnelles et aujourd'hui des nouvelles réglementations sur la formation médicale continue qu'on appelle le DPC, qui s'appelle le développement professionnel continu. C'est des gros mots, mais c'est pas grave. Deuxième élément de perspective d'avenir, c'est l'évolution permanente des indicateurs, mortalité, morbidité. Bien sûr, c'est continuer à estimer en permanence le nombre d'actes qu'on réalise en France et dans chaque structure de soins. Mettre un accent fort sur la formation initiale des médecins anesthésistes et dans un hôpital universitaire, on forme beaucoup d'internes, mais également ne pas oublier qu'un médecin, ça va travailler pendant 30 ans et qu'il faut forcément passer par une formation médicale continue de qualité, puisque c'est que comme ça qu'on va pouvoir maintenir le niveau de compétence. Et puis des progrès maintenant pharmacologiques, ça aujourd'hui c'est fini, on n'aura rien pendant à peu près 20 ans, on est sur une grande pause, il faudra attendre les progrès de la génétique pour avoir des profils génétiques au doigt du patient en consultation pour savoir quels médicaments seront les meilleurs. Mais ça, bienvenue à Gattaca, c'est dans 30 ans, mais voilà, moi, je n'aurais pas connu ça. Et puis, des progrès technologiques, ça, c'est une évidence. Je n'ai repris pas la diapo de Denis parce que celle-là, c'est la mienne. C'était mon bloc opératoire quand j'ai commencé mon internat. Je travaillais avec ça. Ça fait rigoler tout le monde, mais c'est vrai, c'est pas si vieux que ça. Et Catherine, je pense qu'elle a vu la même machine. Puis vous voyez qu'aujourd'hui, on est sur un environnement au CHU qui est un peu plus sophistiqué, un peu plus technologique. Je pense que dans 30 ans, quand mon successeur fera cette présentation, qui mettra la photo ici de droite quand il la mettra à gauche et qui vous montrera le bloc opératoire de 30 ans, il dira mais comment ils ont pu travailler dans des conditions aussi médiocres. C'est le développement, c'est l'intelligence médicale et humaine. Donc aujourd'hui, on a un truc qui nous semble extrêmement sophistiqué, mais on pensait la même chose à cette époque-là. Et il est probable que demain, on aura des systèmes automatisés, une aide à la décision, enfin plein de développements électroniques. Mais clairement, je pense que l'amélioration de la sécurité, demain, ça passera par ces paramètres-là, ce monitorage sophistiqué. Et aujourd'hui, ça ne passera pas par une modification des médicaments, car ceux qu'on a aujourd'hui sont déjà d'une extrême qualité par rapport à ceux que j'ai connus quand j'étais au début de mon internat dans les années 1984. C'est tellement vieux. Merci beaucoup. Donc on a dit qu'on faisait discussion à la fin. Et donc on va passer sur la phase post-op qui est moins philosophique mais plus importante peut-être pour vous, sur les soins en post-opératoire.
Donc bonsoir à tous. Effectivement, je vais vous parler de ce qui se passe après votre intervention, une fois que le chirurgien a fini son travail et que vous allez devoir quitter le bloc opératoire. Une fois que vous allez quitter le bloc opératoire, vous allez aller dans une salle qui s'appelle la SSPI, donc c'est salle de surveillance post-interventionnelle, qui est plus communément appelée salle de réveil. Et cette salle, c'est une unité de surveillance spécialisée qui a été rendu obligatoire, donc Dr Frasca, le professeur Deban vous l'ont rappelé, par le décret du 5 décembre 1994. C'est un lieu de sécurité dont l'objectif va à la fois être la sécurité du patient, mais aussi son confort. Et donc ça va être tout l'objectif de votre prise en charge pendant votre durée de passage dans cette salle. Alors, d'abord la sécurité, parce que c'est évidemment le maître mot, vous l'aurez compris, je pense, sur les deux présentations précédentes. La sécurité est notre maître mot dans la pratique de l'anesthésie, et la salle de réveil est un lieu de sécurité où on va retrouver l'ensemble des appareils présents lors de votre passage au bloc opératoire. Donc en gros, on doit pouvoir surveiller de la même manière, de la même qualité, le patient en salle de réveil, comme au bloc opératoire. Donc pour ça, vous allez avoir un environnement qui, pour le coup, n'est pas très confortable. Vous allez arriver dans une salle où vous allez avoir beaucoup de moniteurs, pas mal de bruit lié à des alarmes de surveillance. Mais ça, c'est le prérequis pour bien vous prendre en charge. Donc l'historique, il vous a été un petit peu fait, mais je vais revenir sur des éléments clés. En 90, donc c'était hier, hein, 50% des patients, après une anesthésie, ne passaient pas en salle de réveil. Il y a 20 ans, on avait 10 fois plus de patients qui décédaient des suites d'une anesthésie. Je ne veux pas chercher de lien de cause à effet, mais en tout cas, la salle de réveil est en grande partie responsable des améliorations de la sécurité des patients. Et notamment, pour une des causes qui était responsable de la mortalité après une anesthésie, c'est la détection précoce des apnées. Les apnées, c'est quoi ? C'est le fait d'arrêter de respirer pendant une durée plus ou moins longue. Et évidemment, quand la durée est trop longue, votre cœur finit par s'arrêter. Et la salle de réveil, une des grosses améliorations, c'était de permettre de s'assurer que vous avez éliminé l'ensemble des produits qu'on vous a administrés pour pouvoir remonter dans un service de soins ordinaires. Alors comment est-ce que finalement vous rentrez dans un univers de sécurité? D'abord, environnement sécurisé, je vous ai expliqué, vous avez un certain nombre de monitorages. On va reprendre l'ensemble des constantes comme au bloc opératoire, c'est-à-dire qu'on va vous mettre un cardioscope avec des électrodes, on va vous prendre la tension artérielle, on va suivre la saturation en oxygène de votre organisme, on va mesurer votre fréquence respiratoire, et tout ça sur des centrales monitorer avec des paramètres d'alarme qui vont prévenir si jamais un de ces éléments de sécurité venait à être à passer dans la zone rouge. C'est donc une surveillance continue, ça va se faire pendant toute la durée de votre séjour en salle de réveil, et c'est sous la responsabilité d'un anesthésiste réanimateur qui est présent soit en salle, soit à très grande proximité. C'est aussi la sécurité liée au personnel. Il y a un soignant pour trois patients. Ce qui veut dire que vous avez un encadrement en personnel qui est très, très largement supérieur à l'encadrement que vous avez dans un service de soins ordinaire. Vous avez le monitorage des paramètres vitaux, je vous en ai parlé, et puis on va aussi surveiller le site opératoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser qu'à la partie anesthésie, on va s'assurer que vous n'allez pas faire de complications précoces liées à la chirurgie, comme notamment le saignement, puisque pour un certain nombre de chirurgies, vous allez avoir des drains qui peuvent drainer le sang au niveau de la cicatrice, et donc on va surveiller tous ces paramètres pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème aigu. Ensuite, je vous l'ai dit, le deuxième objectif de la salle de réveil, c'est le confort. C'est-à-dire d'améliorer votre ressenti et d'améliorer la façon dont vous allez récupérer de l'anesthésie. Alors, là encore, je vous le redis, vous n'aurez pas, n'attendez pas de la salle de réveil un lieu agréable, sans bruit, calme, où vous pourrez vous réveiller en douceur. Non. Comme je vous l'ai dit, comme le paramètre sécurité est le paramètre le plus important, vous allez arriver dans un univers qui est bruyant. Mais sur tout le reste, on va faire en sorte que vous soyez confortable. Alors le confort, c'est d'abord la douleur. Évidemment, vous avez subi une intervention chirurgicale, et donc le geste chirurgie, les effets de l'anesthésie s'estompant, la douleur liée à la chirurgie peut venir. Donc on va d'abord évaluer votre douleur à votre arrivée et pendant tout votre séjour. L'évaluation de la douleur, elle se fait de manière assez simple, soit par ce type d'échelle, c'est-à-dire une échelle visuelle, on vous demande de placer un capteur, soit plus souvent sur une échelle numérique simplifiée, on vous demande, sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de douleur. En fonction de votre niveau, on va mettre en place une stratégie et l'administration de traitements contre la douleur. Mise en place des traitements antalgiques, donc les prescriptions ont été faites par le médecin anesthésiste au bloc opératoire et les infirmières de salle de réveil vont les mettre en œuvre. On va mettre en place des systèmes justement de gestion de la douleur. Un certain nombre d'interventions, les interventions les plus douloureuses, vont nécessiter des pompes, notamment des pompes à morphine, où vous allez gérer vous-même l'administration de ces médicaments. Pour cela, il faut qu'on vous l'explique, même si ça vous a été expliqué généralement lors de la consultation d'anesthésie. Souvent, c'est assez loin, il y a eu pas mal d'informations. Donc là, l'infirmière, au moment où elle vous branche la pompe, elle vous réexplique le principe du fonctionnement. Et puis, malheureusement, on va gérer votre douleur, mais on risque d'entraîner des effets secondaires liés aux médicaments qu'on utilise. Donc les infirmières vont surveiller ces effets secondaires et vont essayer de les soulager. Donc, premier élément de confort, la douleur. Un patient ne sort pas de salle de réveil tant que sa douleur n'est pas soulagée. Deuxième élément de confort, le froid. Alors quand vous allez rentrer dans un bloc opératoire, vous allez rentrer dans un univers qui est froid. Le froid, c'est principalement pour limiter la prolifération des bactéries, mais ça a un impact directement sur vous, puisque vous arrivez presque nu dans la salle d'opération, et que donc votre organisme va se refroidir. Alors, au bloc opératoire, il y a une stratégie pour faire en sorte que votre température ne baisse pas trop, mais ça ne peut parfois ne pas suffire. Et donc, dès votre passage en salle de réveil, on va évaluer votre température corporelle, et si jamais vous avez froid ou si jamais votre température est inférieure à 37, on va pouvoir vous proposer des couvertures chauffantes pour pouvoir faire monter cette température. Alors c'est un élément de confort, mais c'est aussi un élément de sécurité, puisque plus votre organisme est froid, plus en se réchauffant, plus l'élimination des médicaments de l'anesthésie vont être prolongées. Et donc l'objectif de vous réchauffer avant de vous faire sortir, c'est d'être sûr que les médicaments de l'anesthésie sont bien éliminés. Et pour certains patients, on peut être amené à les maintenir endormis pendant toute la phase de réchauffement jusqu'à ce que leur corps ait une température convenable pour que leur organisme ne mette pas trop d'énergie à se réchauffer. Et donc ça, c'est le cas pour principalement les chirurgies très longues. Et troisième élément de confort qui souvent revient le plus ardemment chez les patients qui ont déjà été endormis, c'est les nausées et vomissements. Les nausées et vomissements, c'est aujourd'hui une source d'inconfort très importante pour les patients. Elle peut survenir en fonction des terrains dans 20 à 80% des cas. Donc évidemment, c'est très important. Néanmoins, l'amélioration des médicaments, de l'anesthésie, et l'amélioration de l'évaluation préopératoire, donc au cours de la consultation, des facteurs de risque des patients, parce que tout le monde, malheureusement, on n'est jamais tous égaux dans la santé, et donc il y a des patients qui ont plus de risques que d'autres de présenter des nausées et des vomissements. Donc on va essayer de cibler ces patients à haut risque pour leur proposer, d'une part, des médicaments qui entraînent moins de nausées ou des techniques anesthésiques qui entraînent moins de nausées, ou alors on va leur administrer pendant le bloc opératoire des médicaments qui vont prévenir ces nausées. Malheureusement, ça ne marche pas toujours, et donc si jamais, malgré ces précautions, en salle de réveil, vous présentez des nausées et des vomissements, on va alors administrer des médicaments thérapeutiques. D'autres pistes, hein, je vous ai mis ce petit verre d'eau parce que un des éléments aujourd'hui qui explique les nausées et vomissements, c'est la déshydratation, le fait que vous ayez été à jeun assez longtemps avant l'intervention, qu'on ne vous ait pas forcément bien hydraté au bloc opératoire et que vous allez continuer à ne pas boire pendant quelques heures après l'intervention. Donc une des pistes aujourd'hui, c'est d'une part de diminuer le jeûne au liquide, Dr Frasca vous en a parlé tout à l'heure, de mieux hydrater les patients en bloc opératoire et surtout de leur proposer un verre de l'eau plus précocement. Et aujourd'hui, on étudie au CHU de Poitiers la possibilité de le proposer dès la sortie de salle de réveil, donc très tôt, pour essayer justement de diminuer ces nausées et vomissements. La sortie, une fois qu'on a assuré la sécurité, votre confort, eh ben, il va falloir que vous retourniez dans le service de soins ordinaire. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui de durée, parce que la durée de séjour en salle de réveil, elle dépend de votre chirurgie, évidemment. Elle dépend aussi de la façon dont vous êtes au cours de séjour. Elle peut aller de quelques minutes, notamment pour une anesthésie loco-régionale, à 24 heures pour des interventions très lourdes. Comment est-ce qu'on évalue cela ? On a des critères de sortie. Hein, donc déjà, tous les critères de confort, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir mal, vous ne devez pas avoir de nausées et vomissements, et vous devez être réchauffé. Donc ça, ces trois paramètres-là, pour votre sortie, sont des critères, des paramètres indispensables. Le paramètre sécurité, c'est-à-dire que vous devez avoir recouvert toutes vos fonctions, donc respiratoire, tension artérielle, avant de remonter dans les étages. Il ne doit pas y avoir de complications chirurgicales. Donc tout ça fait que c'est une évaluation hein, qui est faite par le médecin de salle de réveil qui va permettre de vous faire sortir. Et donc la sortie de salle de réveil, elle n'est jamais automatique, hein, elle est toujours sous la responsabilité du médecin anesthésiste de salle de réveil. Pour les chirurgies classiques, c'est-à-dire ceux qui finalement ne présentent aucun problème, elles vont être standardisées. On va essayer de faire une durée de passage minimum, même si c'est très discuté, parce que finalement, on a tendance à les garder plus longtemps qu'il ne faudrait probablement en salle de réveil. Et donc, c'est probablement des choses qui évolueront dans les prochaines années. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci. Merci à vous quatre. Alors, vous connaissez le principe. Je vais passer auprès de vous. Si vous avez des questions, vous levez la main, comme à l'école. Vous parlerez bien dans le micro afin que l'on puisse vous entendre. Je vous rappelle, si vous venez d'arriver, que tout ce qu'on se dit ce soir est enregistré pour être ensuite diffusé sur le site du CHU et de Mendès France, qui va vous permettre de réécouter tout cela. Alors, avant de vous donner la parole, j'ai déjà vu une main se lever, il y a plusieurs questions qui me sont arrivées par écrit. Est-ce qu'il arrive souvent que l'on découvre des allergies pendant une anesthésie ? Alors, avec un micro. Avec un micro, merci.
Alors, le mot « souvent » n'est pas adapté. Parfois, de manière exceptionnelle, des patients peuvent faire des réactions allergiques lors de la phase opératoire. Alors, on pense, surtout pour ceux qui ont un tout petit peu de bouteille à l'affaire Chevènement, pour ceux qui se souviennent de cette histoire ou d'autres, il faut savoir que quand vous prenez un médicament à la maison, vous avez aussi un risque d'avoir une allergie. Donc, c'est un problème qui est lié au médicament que vous prenez. Alors c'est vrai que comme on met beaucoup de médicaments et beaucoup de types de médicaments différents en bloc opératoire, cette incidence peut arriver un peu plus fréquemment que dans la population générale. Je dirais qu'il vaut mieux faire un problème allergique au bloc que de le faire à la maison. Parce qu'au bloc opératoire, il y a un peu de personnel spécialisé, il y a un peu de matériel spécialisé et donc on s'en sort. Il y a quelques cas effectivement mortels, ça arrive. Ils sont d'ailleurs comptabilisés dans l'enquête que je vous ai présentée avec les décès totalement imputables à l'anesthésie. Sachez qu'il n'y a pas que les médicaments qui sont allergisants, il y a le latex. Latex, c'est ce qui est sur les gants des chirurgiens. Et vos chirurgiens ne vous opéreront pas avec les mains nues. Donc quand on sait et on le détecte en préopératoire, surtout celle-là, si vous avez des problèmes d'allergie au latex, il est extrêmement important que vous nous le disiez, car ça veut dire que derrière, on aura une procédure spéciale au bloc opératoire pour vous opérer dans un environnement qu'on appelle latex-free, donc sans latex. Et tout ce qui contient du latex dans le bloc opératoire, gants et tout ça, seront nettoyés et enlevés avant que vous rentriez au bloc opératoire. Pour savoir si on est allergique au latex, il faut avoir touché le latex. Il y a des allergies croisées. Si vous êtes allergique au kiwi, à l'ananas, à la banane, à certains fruits exotiques, vous avez un risque majoré d'être allergique au latex. Mais aujourd'hui, pour répondre à la question suivante, il n'y a pas de test de dépistage prévisionnel. Donc on ne peut pas tester tous les gens dans le bloc opératoire pour savoir s'ils ont une allergie, parce que ces tests-là ne sont pas très spécifiques. Et donc on ne pourrait pas avoir de bonnes prévisions du risque allergique. Alors il y a le préservatif, c'est du latex. Il y a le ballon de baudruche des mamans quand les enfants font leur anniversaire. Il y a les pneumatiques de voiture. L'environnement est rempli de latex et on voit que l'incidence d'ailleurs aujourd'hui ne fait que croître depuis 20 ans. Alors il y a probablement l'effet sida contraceptif, mais il y a aussi la vie quotidienne, le fait que des gens travaillent avec des gants. Quand vous allez chez Leclerc, la charcutière qui vous sert, elle a des gants en latex, et donc elle peut aussi développer des allergies au latex. Mais ça c'est un problème qui est bien connu, bien pris en charge. Quand on a, et c'est probablement le seul cas d'allergie qu'on peut prévenir, parce que simplement l'interrogatoire doit pouvoir le trouver.
Ok, on va démarrer les questions, monsieur. Vous pouvez rester assis, je vais vous tenir le micro.
Merci. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir au docteur Bérard, à qui j'adresse un petit coucou personnel, que j'ai bien connu professionnellement. C'est autre chose. J'ai été anesthésié dans mon existence à peu près une dizaine de fois, et tout s'est toujours très bien passé jusqu'à la dernière fois. Donc la dixième fois, je n'appréhendais pas du tout l'anesthésie, mais alors pas du tout. Alors que j'ai eu mon rendez-vous post-opératoire comme tout le monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'anesthésiste. Et lorsque j'ai été approché par un brancardier de la salle d'opération, il se présente un monsieur qui me dit « Tiens, bonjour monsieur, vous me reconnaissez ?» Ah, je dis non, pas du tout. Alors, il enlève son chapeau, son masque et tout. Et puis, je dis oui, vous êtes l'anesthésiste. Alors, on me dit, tiens, pendant qu'on y est, je vous pose votre cathéter. Tiens, j'espère que je vais réussir. Ça m'a semblé bizarre, ça. Mais comme j'aime bien plaisanter moi aussi, je me suis dit, c'est peut-être celui aussi son cas. Alors, il pose le cathéter, le scotch et tout. Bon, il me dit, ça y est. J'ai dit, vous voyez bien que c'est réussi. Vous croyez qu'il me dit. Ah, je dis ça, c'est curieux quand même. Bon, mais j'étais à la porte du bloc opératoire avec 4 ou 5 autres personnes. Et mon tour arrive, il vient me chercher, cet anesthésiste, dont je tairai le nom et l'établissement. Il vient me chercher, il m'installe sur la table du bloc opératoire. Et puis, il me dit, vous allez avoir une petite sensation de chaud dans le bras, mais ce n'est pas grand-chose, vous allez voir. Mais comme je n'appréhendais pas du tout la dixième anesthésie, du fait des 9 précédentes, ce qu'il m'a dit là n'entre pas dans mon cerveau, si vous voulez, quoi. Alors, il me dit, on y va ? Je dis, oui, on y va. Alors là, je me suis mis à hurler, où on m'entendait très loin dans les couloirs. Je peux vous dire qu'on m'a entendu très, très loin dans les couloirs. J'hurlais tellement fort qu'il me tapait sur l'épaule en me disant, tenez, monsieur, en citant mon nom, non, mais ne vous énervez pas, calmez-vous, ça va diminuer. Et puis ça ne diminuait pas. La douleur était atroce pendant 20 ou 30 secondes. C'était vraiment atroce. Puis tout d'un coup, ça s'est mis à diminuer, effectivement. Je lui dis, oui, ça commence à diminuer, mais alors toujours en hurlant. Il me dit, ça va s'arranger. Et puis effectivement, ça a diminué, et je me suis endormi.
Donc en fait, est-ce que, pour résumer, est-ce qu'il y arrive aussi des complications avant la salle de réveil, donc au tout début de l'anesthésie?
Non, mais là, monsieur, vous décrivez une anesthésie récente, et je pense que les 9 précédentes devaient être assez anciennes. Excusez-moi de... Bon.
actuellement pour une coloscopie.
D'accord. Donc je vois le médicament que vous avez reçu. Ça s'appelle du propofol. C'est celui qu'a eu Michael Jackson. Donc vous êtes dans la famille de Michael Jackson. Ce médicament est connu, monsieur. Et c'est un dossier qu'on a encore rediscuté cette semaine. C'est un médicament qui est connu pour donner des douleurs à l'injection. Propofol est apparenté. Alors maintenant, il y a des formes particulières de ce médicament-là qui réduisent le phénomène, mais le phénomène existe. Il est extrêmement désagréable, je suis d'accord avec vous. C'est décrit chez à peu près 20% de la population à qui on fait ce médicament-là. Il n'y a pas de technique miracle pour réduire la douleur. En tout cas, si vous faites anesthésier dans 5 ans, monsieur, ce que je vous conseille, c'est de dire à votre anesthésiste que vous avez eu une sacrée douleur sous ce médicament-là et qu'il serait sympa de faire une mesure préventive efficace pour que ça ne recommence pas.
Merci pour le conseil. Mais je peux vous dire que je me suis promis de ne pas le dire à mes enfants pour ne pas les affoler au cas où ils auraient besoin un jour d'être anesthésiés, ni à des amis proches, etc. Mon épouse a eu une intervention entre-temps et elle a expliqué ce qui m'était arrivé à son anesthésiste qui, le jour de l'opération, l'a pris un peu en charge et lui a dit « Ne vous inquiétez pas, madame, tout va très bien se passer ».
Voilà. Qui a une autre question, s'il vous plaît, monsieur ? Alors, on va évidemment, je ne vous l'ai pas dit au départ, j'aurais dû, c'est de ma faute, on va éviter toutes les consultations personnelles, évidemment, parce que, vous l'avez compris, les docteurs et professeurs sont venus sans les dossiers médicaux. Ou alors, vous les avez cachés dessous.
Non, mais on a tout dans la tête.
Vous avez tout dans la tête, c'est vrai. Bon, alors, allez-y pour les... Non. Évitez, évidemment. Essayez de généraliser votre question, s'il vous plaît.
Je vais tenir le micro. Oui, qu'est-ce qui justifie que l'anesthésiste qui fait la consultation, ce n'est pas forcément celui qui se retrouve en salle d'opération ? Alors, est-ce que là, quand on voit ça, est-ce que ça ne peut pas, chez le patient, poser des interrogations ?
Je continue à répondre. Allez, vas-y. Allez, vas-y, monsieur. Bonjour, les mains.
En fait, je sais que c'est souvent une source de désagrément pour les patients, mais ça devrait vous rassurer. Je vais m'expliquer pourquoi. On a des procédures qui sont, entre guillemets, standardisées, avec une prise en charge qui est, comme vous l'a expliqué le professeur Deban, repose sur de nombreuses recommandations, avec des protocoles pour la prise en charge d'un certain nombre d'interventions. Et dans une même équipe, on a un dossier médical extrêmement bien renseigné sur lequel tous les éléments que vous nous avez transmis lors de la consultation et tous les éléments de discussion qu'on a pu avoir avec vous, notamment sur la technique anesthésique, sont reportés. Ce qui fait que un collègue anesthésiste qui travaille dans la même équipe que moi va savoir exactement ce qu'il doit faire et comment il doit faire et ce que j'ai dit au patient lors de la consultation. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément, pour vous expliquer peut-être cette réalité, c'est que, comme l'a expliqué le professeur Deban, on est, entre guillemets, des prestataires de services, même si j'aime pas tellement ce terme, mais c'est-à-dire que on intervient sur différents secteurs. C'est-à-dire que le chirurgien viscéral, quand il va, vous allez le voir pour vous faire opérer de la vésicule, lui, il va opérer votre vésicule parce que c'est sa spécialité, il fait que ça. Nous, on est anesthésiste dans un établissement de santé pour lequel on va intervenir sur différents secteurs, pas que pour la chirurgie viscérale. Et en plus, il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est qu'on a la permanence de soins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être amené à être de garde la nuit qui précède votre intervention. On peut être amené à faire des astreintes. Et tout ça, ça désorganise, ça empêche l'organisation d'un anesthésiste, une consultation, une anesthésie au bloc opératoire et puis la visite d'après. C'est très difficilement gérable du fait de la sécurité et de l'organisation des soins. Voilà. Donc, je sais que c'est pour vous, souvent, pour les patients, c'est la première chose que les patients disent à la fin de la consultation, est-ce que ce sera vous, docteur ? Eh bien, non. Ou alors, peut-être, s'il y a une chance, il y a forcément une chance, mais ce ne sera pas systématique. Et prenez-le pas comme quelque chose de mauvais dans votre prise en charge, c'est un gage de qualité de soins. Ce que l'on vous a dit en consultation, ce que l'on a relevé en consultation, la façon dont votre dossier médical a été renseigné, tout est fait pour que un autre anesthésiste qui agit sous les mêmes protocoles puisse vous prendre en charge de la même manière. Voilà.
Merci.
C'est ce qu'on appelle une notion d'équipe.
Au micro, s'il vous plaît, professeur.
Oui, excusez-moi, je veux juste rajouter un mot sur l'excellente réponse de Mathieu. Nous travaillons en équipe. Donc on n'est pas des solitaires. Un chirurgien peut être un solitaire, ce n'est pas grave. Nous, on est en équipe puisque le plus souvent, vous envoyez un à la consulte, un deuxième au bloc opératoire, un troisième en salle de réveil et un quatrième, cinquième ou sixième en soins post-opératoires. Et en réanimation, j'en parle même pas. Donc on est vraiment sur une notion de travail en équipe. Et pour que cette notion soit efficiente, ça veut dire qu'on a besoin d'une traçabilité totale des informations qui sont collectées à chaque étape de votre prise en charge. Et comme l'a très bien expliqué Mathieu, tous les éléments qu'on collige de la consultation, maintenant ils sont informatisés et donc tout votre dossier informatique suit l'ensemble de votre parcours dans l'établissement, de la consulte, au bloc, en salle de réveil, en soins continus et éventuellement en réanimation.
Merci. D'autres questions ? J'arrive. Je vous tiens le micro, je me sors à côté.
Tout à l'heure, professeur, on a évoqué le problème des allergies. Pour une personne qui a un terrain allergique, est-ce qu'il y a des précautions qui sont prises ou comment ça se passe ?
D'abord, il faut qu'on sache, bien évidemment, si vous le savez, si cette patiente le sait elle-même, c'est de quel médicament il s'agit. Parce que si vous dites « je suis allergique à un médicament » et qu'on ne sait pas lequel, ça ne va pas beaucoup nous avancer.
Oui, mais pas forcément un médicament, mais un terrain allergique.
Mais ce sont des questions qui vous seront posées systématiquement dans la consultation d'anesthésie, allergique à la poussière, au pollen, au poil de chat, et que sais-je, à la fraise et au poisson. Tous ces éléments-là sont importants pour nous, puisqu'on peut, dans le cadre de la prémédication que vous a signalé tout à l'heure Denis Frasca, on peut mettre des médicaments antihistaminiques qui sont capables de réduire un peu le risque, mais pas de manière définitive. En tout cas, c'est important de savoir que, par exemple, si vous avez une allergie à un antibiotique, et ça, c'est assez fréquent dans la population générale, et ben, c'est important de savoir lequel, car bien évidemment, on ne va pas vous donner un antibiotique de la même classe pharmacologique, on va vous donner un médicament d'une classe différente sur lequel, a priori, vous n'êtes pas allergique. Donc c'est un élément extrêmement important et qui fait partie de toute évaluation préopératoire quasi systématique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des évaluations préopératoires d'anesthésie, mais la question, avez-vous des allergies, d'allergies personnelles ou familiales, c'est un standard.
C'est la première chose que nous enseignons.
Ouais.
D'autres questions ? Oui, j'arrive. Ah, des petits papiers, je vais faire de la lecture. Alors j'en ai plein de petits papiers, donc je vais faire de la lecture. Est-ce qu'il est possible d'envisager une autre méthode que l'intraveineuse pour injecter le produit qui va anesthésier la personne ?
Alors, la méthode intraveineuse, c'est une méthode très couramment utilisée pour l'anesthésie générale. C'est celle qu'on utilise le plus souvent au bloc opératoire actuellement pour endormir les patients adultes de façon simple et efficace. Après, il existe d'autres méthodes pour endormir les patients, mais ce sont plutôt les enfants. Les enfants qu'on va endormir par voie inhalée, c'est-à-dire qu'on va leur faire respirer à travers le masque du respirateur un gaz anesthésique. Alors l'inconvénient, c'est que ce gaz, souvent, ils sont pas très bons. Ça provoque quelques réactions un petit peu exacerbées au début de l'endormissement. Et donc, c'est un phénomène qu'on évite. C'est un produit qu'on évite chez des patients adultes, chez qui on peut mettre une perfusion, qu'on peut généralement posé sans trop de soucis, hein, preuve en est les cas précédents, mais le cathéter qui permet l'injection des médicaments n'est pas une contrainte majeure, disons que ça ne fait pas mal, donc les patients acceptent volontiers qu'on pose ce cathéter. Alors quelquefois il arrive qu'on ne puisse pas poser ce cathéter pour endormir les patients par voie intraveineuse, ce sont des cas quand même très très rares.
Ok. Alors, j'ai une question hyper technique, il va falloir que vous m'expliquiez parce que je ne comprends pas tout. Je pense qu'elle est posée par quelqu'un qui connaît un peu le sujet. Alors on me demande, en termes de sécurisation des processus dans la prise en charge du patient, quelle est la position du département d'anesthésie en ce qui concerne l'application de la checklist HAS au bloc opératoire de Poitiers, notamment au time-out requis avant toute intervention chirurgicale.
Là, je suis désolé, c'est une question tellement technique qu'on la traitera à part. C'est puisque, bien ce que puisque c'est tellement technique qu'à mon avis, dans la salle, 10% des gens comprennent le libellé. Moi, j'ai compris, mais la réponse est d'abord peut être polémique. La littérature scientifique là-dessus est extrêmement ambiguë. Donc, je ne répondrai pas à cette question dans ce cadre-là.
D'accord. Donc, j'avais raison de ne pas comprendre non plus. Ça me rassure.
Si vous ne l'avez pas compris, c'est qu'il ne fallait pas la traiter.
D'accord. Mais j'ai quand même, par sécurité, voulu la poser. On me demande aussi s'il y a suffisamment d'anesthésistes dans notre région.
Il n'y en a jamais assez.
Ah, attends, c'est micro.
Qu'est-ce qui fait la différence des deux courbes que vous avez présentées, c'est-à-dire la courbe des chirurgiens, on la voit qui augmente, et la courbe des anesthésistes diminue. Alors, est-ce que c'est le salaire des anesthésistes
non, pas
qui
n'est
pas
tout,
suffisant
non.
Qu'est-ce qui explique ces deux courbes?
C'est extrêmement simple, monsieur. Vous savez que pour former un médecin spécialiste, chirurgien ou anesthésiste, il faut, après le baccalauréat, 12 ans. Bon, à peu près, hein, entre 12 et 15 ans. Denis, t'en as combien? 20. Ouais. Mathieu, t'en as combien? 15. Ouais, au moins. Donc, il faut du temps. Quand le ministère, parce que c'est un problème d'État, décide de fermer le robinet, c'est-à-dire de réduire le nombre de postes d'internes de différentes spécialités, dans les années, je vais juste un chiffre pour vous illustrer. Dans les années 1983, en France, l'anesthésie, c'était pas non plus extraordinaire, ils étaient formés en dehors de l'internat, et il y avait à peu près la production de l'ordre de 400 à 500 médecins par an. En 1983, l'État, donc le gouvernement, a dit l'anesthésie devra suivre la filière de l'internat. Très bien, pas de problème. Combien de postes ouverts? 80. Donc pendant de nombreuses années, au lieu d'en former 500 par an, on en a formé 80, ce qui explique le décalage que vous avez aujourd'hui. Les chirurgiens ont probablement été beaucoup plus prégnants que nous pour tordre le cou au ministère et aux ministres. Par contre, eux, ils n'ont pas eu cette réduction drastique parce que tous les chirurgiens déjà à l'époque, depuis les années 60, étaient déjà formés via l'internat. Alors, moi, je suis d'accord, parce que c'est important que tous les gens aient le même niveau de formation et les mêmes compétences médicales avec un même cursus. Là, je suis complètement d'accord. Mais simplement, ne pas passer de 500 à 80 brutalement pendant 10 ans fait qu'on a un problème démographique majeur que, d'ailleurs, ma société savante avait démontré et avait publié en 1989. Vous voyez, c'est vieux. Et on avait dit à l'époque, avec les modèles faits par des enquêtes démographiques, on avait dit la crise médicale anesthésique commencera dans les années 2010. Ben, on ne s'était pas gouré. Alors ça risque de changer un peu par rapport à la courbe parce qu'on a augmenté brutalement aujourd'hui le nombre d'internes formés. On est passé de 280 à 412, donc ça a une hausse. Dans les modèles que je vous ai présentés, on n'avait pas analysé, parce qu'on ne pouvait pas le savoir, le flux entrant des médecins spécialistes hors communauté européenne, et d'ailleurs même dans la communauté européenne élargie. Donc il y a en ce moment beaucoup de transferts de médecins qui viennent des pays étrangers, Europe de l'Est et bien sûr d'autres horizons, qui fait qu'on a une augmentation. Mais quoi qu'il arrive, ces deux événements vont se superposer, et j'espère en bien, on va quand même vivre une période un peu tendue en termes de recrutement. Et ceci n'est pas... Ça n'est pas lié qu'à Poitiers, c'est un niveau national et ça concerne à la fois les structures privées et les structures publiques parce que simplement aujourd'hui on est dans le papy-boom et donc il y a un départ en retraite massif et dans mon service par exemple dans les 5 ans qui viennent je vais perdre 25% de l'effectif. Donc c'est pas rien et donc c'est difficile à gérer.
Et Charles Joustrec, ce phénomène est exactement le même pour les généralistes. On a une diminution du numerus clausus qui fait que à l'heure actuelle, on n'a plus de médecins généralistes. Et nous, on a fait quand même plus fort encore que les anesthésistes. On a inventé ce qui s'appelait le MICA. Alors le MICA, c'était proposer aux médecins à 50-50 de partir à la retraite plus tôt en les payant. Parce que le principe de l'État était de dire, moins on aura de médecins, moins on aura de prescriptions. Donc moins on aura de prescriptions, moins ça coûtera cher. Donc on a payé des médecins pour partir à 55 ans. Et bien maintenant, on a remonté le numerus clausus. Mais nous, ce n'est pas 15 ans, mais c'est 10 ans. Et on est exactement dans le même problème. C'est le numerus clausus.
Est-ce que l'anesthésie peut avoir des effets négatifs sur la mémoire?
Alors, l'anesthésie peut avoir certains effets négatifs sur la mémoire, notamment dans les heures qui suivent l'intervention. Après, il n'y a pas vraiment d'études. Il y a quelques études peut-être qui montrent qu'on peut avoir des dysfonctions cognitives qui persistent, mais si vous voulez, les médicaments qu'on utilise ne sont pas spécifiquement dédiés à la destruction d'une fonction du cerveau. Donc la mémoire, c'est un effet indésirable, mais qui se résorbe la plupart du temps chez nos patients. Vous voulez peut-être compléter la réponse ?
Oui, c'est un phénomène qui apparaît et qui a été assez bien étudié chez les personnes âgées, puisqu'il y a même une époque où on pensait que nos médicaments d'anesthésie pouvaient intervenir sur le gène régulant une protéine impliquée dans la maladie d'Alzheimer. En fait, ça n'en a rien du tout, il n'y a aucune relation. Et les études épidémiologiques bien conduites, surtout au Danemark, montrent qu'effectivement, il peut y avoir une baisse de mémorisation pendant les 3 premiers mois suivant l'anesthésie, et que les études à 6 mois de recul montrent que les fonctions sont revenues à un niveau préopératoire. Donc il peut y avoir un petit trouble de mémoire, mais transitoire. Et si au bout de 6 mois, vous avez vraiment des troubles de mémoire importants, il ne faut pas mettre en accusation les médicaments qu'on vous a donnés pour votre anesthésie. C'est probablement un autre phénomène pour lequel il va falloir demander un avis d'un médecin généraliste et éventuellement d'un neurologue.
Est-ce que vous pouvez avoir pour X raisons recours à d'autres techniques pendant l'anesthésie comme l'hypnose ? Voilà, vous pouvez m'expliquer le HAS et le time-out, si vous préférez. Hein.
Alors, dans certains établissements, effectivement, l'hypnose peut être utilisée en complément de certaines techniques anesthésiques. Bon, on utilise rarement que l'hypnose. Nous, en l'occurrence, au CHU de Poitiers, bon, on ne l'utilise pas de façon courante, routinière. Après, je ne sais pas quelle était l'arrière-pensée de la question. Oui. En tout cas, si ça concerne que l'hypnose,
rôle et place de l'hypnose.
Toutes les interventions ne peuvent pas se faire sous hypnose. Hein. On peut faire certaines interventions, des interventions généralement simples ou superficielles. Après, il y a des interventions qui nécessitent une anesthésie générale classique.
Alors l'hypnose, bon, moi je suis pas un fervent croyant de ça, hein, parce qu'il faut être croyant ou pas croyant. Moi je crois pas à ça, mais c'est mon aspect personnel. Dans mon service, j'ai un médecin anesthésiste qui fait de l'hypnose. J'ai quelques infirmiers anesthésistes qui ont fait le DU d'hypnose. Alors, on s'en sert, c'est vrai, on peut s'en servir en maternité, lors du travail obstétrical, quand on ne peut pas mettre de péridurale. On peut en faire aussi dans de la chirurgie simple et périphérique, en complément d'autres choses. Je ne crois pas, quand je lis la littérature scientifique là-dessus, qu'on arrive à faire de la chirurgie avec que de l'hypnose seule. Parce que l'hypnose, si je comprends bien, on est déconnecté de l'environnement, mais je pense que la sensation douloureuse n'est certainement pas inhibée suffisamment avec l'hypnose seule et qu'il faut faire des compléments. Et par exemple, la chirurgie de la thyroïde en Belgique se fait sous hypnose, mais avec un complément de médicaments intraveineux. Donc c'est probablement une aide, c'est à la mode, voilà, c'est très à la mode. La littérature montre plein de papiers, moi je ne suis pas un fervent croyant de cette affaire-là. Je crois plus à l'anesthésie loco-régionale, qui évite l'anesthésie générale, si c'est la question posée. On ne peut pas la faire partout. Mais l'hypnose, oui, pourquoi pas. Je n'ai jamais interdit à mes médecins que ça intéresse d'aller se former à ça, ni aux infirmières. Mais je ne serais pas, un fer de lance dans le développement de l'hypnose.
On me demande aussi s'il y a différentes possibilités en fonction d'une même opération, c'est-à-dire des hésitations parfois entre anesthésie locale ou générale.
Oui, il y a. Alors, déjà, la première réponse est forcément oui, et toute opération qui se fait sous anesthésie, qui peut se faire sous anesthésie loco-régionale, peut se faire sous anesthésie générale. Ça, c'est le béaba. C'est-à-dire que si on vous opère de la main, qu'on vous endort que le bras pour vous opérer de la main, on peut évidemment vous endormir complètement pour vous opérer de la main. Donc, ça, c'est une première chose. Après, le choix de la technique. Il va être lié à une discussion, qui c'est vrai, avec le patient, mais aussi à, ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire, en gros, quel est le risque de l'anesthésie générale par rapport aux bénéfices par rapport à ses bénéfices et vice-versa avec l'autre technique. Comme on vous l'a expliqué, avec tous les risques liés à l'anesthésie générale, l'allergie, les risques de problèmes de voie aérienne supérieure, plus on peut limiter l'anesthésie générale, mieux, entre guillemets, on se porte en termes de sécurité. Chez les patients, il est clair que chez des patients qui ont des antécédents assez lourds, on va être plus dirigiste, c'est-à-dire qu'on va plus facilement imposer une technique plus légère, l'anesthésie loco-régionale, par rapport à l'anesthésie générale. Chez un sujet jeune, qui n'a aucun problème de santé, s'il refuse l'anesthésie loco-régionale, il n'y a pas de raison de lui empêcher l'anesthésie générale. Voilà. Donc c'est une discussion au cas par cas, en fonction à la fois de la chirurgie, mais aussi des antécédents du patient. Donc c'est le cadre de cette discussion, c'est la consultation d'anesthésie. Voilà.
On me demande aussi s'il y a un nombre maximum d'anesthésies possibles dans une vie.
Non. Non.
Je vais juste faire un complément sur la réponse de Mathieu qui est concernant l'anesthésie loco-régionale. Moi, je serai encore plus violent que toi, parce que je suis beaucoup plus vieux. Il y a une indication où je ne discute pas, c'est la césarienne programmée, qui doit être faite sous anesthésie loco-régionale et pas sous anesthésie générale. Et ça, il n'y a pas de discussion quand les dames viennent nous voir pour des césariennes programmées, j'entends bien, parce qu'en urgence, c'est un autre débat. S'il faut les césariser, la césarienne sera faite sous anesthésie loco-régionale, il n'y aura pas de discussion, sauf contre-indication rarissime à la technique, parce que simplement, on sait que la mortalité maternelle est significativement réduite quand on fait la césarienne sous anesthésie loco-régionale que sous anesthésie générale. Donc là, la discussion est très simple.
Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai épuisé mes petits papiers. Plus de petits papiers. Allez-y.
Dans quel cas ne peut-on pas faire d'anesthésie péridurale?
C'est assez. Les cadres sont. Le cadre, entre guillemets, est assez rare. C'est principalement si on va prendre plusieurs éléments. Tous les patients qui nécessiteront après leur intervention d'un traitement par anticoagulant, c'est-à-dire les patients qui ont besoin d'avoir une fluidification du sang vont être contre-indiqués à la technique péridurale parce que la principale complication de la péridurale, c'est l'hématome, c'est-à-dire le saignement au niveau de la moelle épinière en regard, et donc pour éviter le risque de cet hématome chez ces patients-là, on va contre-indiquer la technique. Après, il y a des patients qui vont avoir des pathologies particulières au niveau de la colonne vertébrale, soit des grandes malformations, soit un rétrécissement de la lumière dans laquelle la moelle épinière se situe. Ces patients-là sont contre-indiqués cette technique. Après, c'est des complications, des contre-indications relatives. Notamment les patients qui sont par exemple sous aspirine ne sont plus contre-indiqués à la technique de péridurale, les patients qui vont avoir du matériel au niveau du dos ou même des antécédents de hernie discale, c'est pas des contre-indications majeures à la péridurale, il suffit de se positionner sur une autre localisation. Voilà, aujourd'hui l'avantage de la technique en termes de morbidité, c'est-à-dire en termes de complications post-opératoires, je parle notamment de la péridurale à visée analgésique, c'est-à-dire contrôle de la douleur, notamment sur les interventions très lourdes sur l'abdomen ou sur le thorax. Les avantages sont clairement démontrés dans la littérature. Il y a un très grand avantage pour les suites opératoires et donc on a tendance à augmenter de manière importante l'indication de cette technique. Est-ce que j'ai répondu à votre question, oui? En partie. Ah, donc pas complètement.
D'accord, bon, vous pourrez rencontrer le docteur juste après si vous voulez. Une autre question? Bon, c'est vrai qu'ils ont tellement été bons que du coup, on n'a plus de questions. On a eu les réponses à tout. Ah, allez-y.
Moi, j'en ai une à leur poser. Est-il vrai que l'anesthésie loco-régionale chez l'enfant est toujours réalisée sous anesthésie générale?
Ça dépend de l'âge de l'enfant, parce que pour faire une anesthésie loco-régionale, il faut surtout pas que ça bouge pas. Alors, mettre un enfant de 2 ans immobile pendant un quart d'heure sans rien, soit vous l'attachez, soit vous l'endormez et puis vous le piquez après et vous la faites après. Pour les plus grands, faut voir. Mais c'est vrai que souvent, pour les plus petits, comme l'a dit Denis tout à l'heure, on les endort avec un gaz anesthésique, on leur met une voie veineuse pour être certain qu'il n'y ait pas de problème particulier, on fait la technique d'anesthésie loco-régionale et on part. C'est ce qu'on fait sur toute la chirurgie du petit bassin chez l'enfant. Par exemple, les problèmes d'hypospade, les circoncisions, les hernies de l'ovaire, etc., ça se fait comme ça.
Merci. Plus d'autres questions? Ok. On va remercier les intervenants. Merci à vous quatre pour vos brillantes explications. On va remercier le CHU, évidemment, l'organisation, l'Espace Mendès France aussi, l'équipe technique, vous, public, bien évidemment. Vous pouvez, je vous rappelle, réécouter ces interventions sur le site du CHU et de l'Espace Mendès France. Pensez à remplir la petite fiche qui est importante d'évaluation. Vous la remettez à nos hôtesses et on va se retrouver pour un prochain Pôle Info Santé le 4 décembre prochain avec un sujet qui, j'en suis persuadé, va vous intéresser, les AVC. Rendez-vous le 4 décembre. Merci, bonne soirée.